Bonjour, c'est Claire pour la chronique Regards croisés sur la médiation. La médiation, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Aujourd'hui, nous allons parler dialogue territorial avec Elsa Bonal, intervenante en intelligence collective. Bonjour Elsa.
Bonjour Claire.
Elsa, quel est votre regard sur le dialogue territorial depuis votre monde professionnel de l'intelligence collective ?
Je mets en pratique le dialogue territorial depuis quelques années et je pense que peut-être qu'avant de croiser ces deux concepts, il faut peut-être les définir parce que derrière intelligence collective, aujourd'hui, on recouvre des pratiques fort différentes autour du travail ensemble. Mais finalement, que ce soit du côté du dialogue territorial ou du côté de l'intelligence collective, qu'est-ce qui est nouveau ? Parce que les gens ont toujours travaillé ensemble au sein des institutions ou en inter-institutions, donc en quoi l'intelligence collective ou le dialogue territorial sont des dispositifs spécifiques, sont une façon spécifique de travailler et de produire quelque chose de l'ordre du commun. Nous formions il y a peu avec l'école du dialogue territorial des animateurs de bassins de captage et une des jeunes personnes qui a été en formation, puisque on reviendra sans doute là-dessus, mais à l'école du dialogue territorial, on combine capitalisation, formation et accompagnement. Donc après sa formation, une jeune animatrice de bassin de captage d'eau potable tentait de mettre en œuvre le dialogue territorial. Et elle s'est promenée sur son territoire pour aller à la rencontre des différents usagers de la ressource eau du territoire. Donc ce qui changeait beaucoup pour elle, c'est qu'elle ne se cantonnait pas dans la lecture de son institution, qui est celle où elle exerce son métier, mais d'un coup, il lui apparaissait qu'il y avait d'autres façons de percevoir une ressource que celle que prescrivait son organisation. Donc elle a eu le désir d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres professionnels, d'autres usagers qui on développe certains usages de cette ressource. Et elle l'a fait de manière plus ouverte, on va dire. Mais quand elle partageait ça, je lui disais, mais enfin, en formation, on est allé un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement pour un animateur valeureux, courageux, d'aller sur un territoire, mais il s'agit vraiment de... Ce n'est pas simplement entrer en dialogue. Ce n'est pas non plus une réunion institutionnelle où les gens sont mis bout à bout et à devoir réaliser un programme ou arriver à un programme d'action. Il s'agit de créer une rencontre assez authentique entre différentes personnes qui ont affaire avec un certain objet, un certain, alors que moi je nomme souvent petit poids pour dire c'est. Il faut arriver à attraper quelque chose qui soit un objectif, qui permette à une vision commune de s'élaborer. À ce stade, ce que je dois dire, je vous ai déjà peut-être perdu, à ce stade, ce que je dois dire sur le croisement entre intelligence collective et dialogue territorial, c'est que, par exemple, l'intelligence collective, il ne s'agit pas simplement de mettre des personnes ensemble et de faire en sorte qu'elles s'entendent bien, qui peut être certaines pratiques assez fusionnelles aujourd'hui de l'intelligence collective où il s'agit de réhumaniser là où il y a eu trop de mise en forme un peu mécanique ou là où il y a trop de prescriptions, on remet l'humain du cœur et puis on permet aux gens de se rencontrer de manière plus impliquée psychologiquement, etc. Là où on est vraiment sur une toute autre approche qui est bien plus opérationnelle et opératoire parce qu'il s'agit vraiment de résoudre un problème. Des personnes qui ont en commun un problème, le petit poids dont je parlais tout à l'heure. Donc il s'agit que le résultat du dialogue ait un effet vraiment sur la vie réelle des personnes. Pour ma part, je définis l'intelligence collective comme suit. L'intelligence collective renouvelle le pouvoir d'agir dans leur vraie vie de personnes, de professionnels, de citoyens. C'est un processus dynamique d'interaction et d'échange, un processus qui relie les personnes pour fabriquer quelque chose, donc un résultat, qui ne serait pas sans eux, donc une création, quelque chose qui doit à l'implication subjective de ces acteurs et dans lequel ces personnes puissent se reconnaître. Donc il y a un lien qui soit établi entre eux autour de cet objet. Et on sait la valeur du lien social aujourd'hui, l'importance de créer ce lien, cette interaction entre les acteurs. Et enfin, dernière, on a vu un résultat, une création, un lien, et donc l'effet dont je parlais à l'instant, un effet qui leur permette d'agir sur le monde qu'ils ont en commun.
Oui, donc de mettre ensemble les gens, ça ne suffit pas. Il y a des méthodes pour que ce soit authentique, que ça produise des choses en termes de contenu, en termes de relations, et qu'au final, cette chose-là, ce soit plus que la somme de chacun. En fait, le tout, c'est plus que la somme de chaque individu, enfin de tous les individus. Et du coup, ce que vous dites, c'est que ça, c'est justement tout le savoir-faire de l'intelligence collective.
Voilà, en fait, dans un dispositif comme dans l'autre, sachant que l'intelligence collective, il y a des dispositifs multiples, comme en dialogue territorial d'ailleurs, même s'il y a des... on y reviendra sans doute autour de l'école du dialogue territorial. Je parlais d'une scène. C'est la fabrication d'une scène, alors de manière moins élégante, un dispositif, mais aussi, sinon c'est une scène pour tenir ensemble, où les parties prenantes vont être réunies dans une unité de lieu et de temps. Et elles vont contractualiser entre elles sur l'objectif du dialogue, sur les objets du dialogue, de quoi on va parler, de quoi on ne va pas parler, de quoi chacun a besoin qu'on parle pour sentir que ça vaut le coup pour lui de dépenser un peu d'énergie, un peu de jus de neurones. Donc c'est un processus assez élaboré qui a des étapes complémentaires les unes avec les autres qui s'emboîtent d'une certaine façon, qui sont comme des marches d'escalier qui est parfois en colimaçon à la façon de Schuiten et Peters, les bédéistes hein, qui sont capables de construire des architectures complexes, alambiquées, étonnantes, où on revient parfois sur soi-même. Hein, c'est pour ça que je parlais de colimaçon, en escalier de colimaçon. Et certaines de ces étapes peuvent ne concerner que certains acteurs. Des fois, on va constituer un petit collectif de gens qui ont le même métier pour un peu renforcer leur approche du problème. Mmh. Et c'est aussi, certaines étapes peuvent aussi se réaliser en milieu ouvert, en plein champ, en bord de rivière. Certaines étapes peuvent se réaliser à distance avec la bien connue, trop connue digitalisation des échanges à la mode aujourd'hui, un peu forcée.
Et en fait, c'est un cheminement pluriel en termes de format, sur mesure, en fait, selon les besoins, et qui produit un apprentissage individuel et collectif aussi du faire ensemble, du discuter ensemble.
Oui, tout à fait. Mais on sait bien que le miel du dialogue territorial, ça reste quand même l'assemblée. Ça reste le moment où tout le monde est réuni. Et on sait qu'il va y avoir au moins deux, voire plusieurs assemblées qui sont des étapes de travail chorale, de travail en cœur, qui prennent toutes leurs saveurs de par le dialogue.
Et c'est quoi la saveur?
Ah, c'est qu'en dialogue territorial, on ouvre cette sacrée boîte noire des usages. Avant le dialogue territorial, l'autre est perçu par le filtre de la position qu'il prend sur un territoire. Les agriculteurs sont comme ceci, les pêcheurs sont comme cela, etc. Et puis, ils ont l'habitude, faute de pouvoir dialoguer, parce que souvent, plus souvent, les gens débattent, de débats d'idées, donc ils renforcent des postures, donc ils font que chacun est sur sa position. Et là, chacun va s'ouvrir par le dialogue, va avoir la possibilité de déplier son activité, de déplier sous le regard d'autrui son activité, ce qui fait sa propre relation à la ressource. Il va révéler ses logiques d'action, il va révéler des stratégies de gestion de la ressource, une éthique. Là où parfois une partie reprochait à l'autre d'avoir un usage débridé de la ressource, ben il va découvrir qu'en fait, non, il y a une stratégie de gestion qui ne correspond pas à la logique de l'autre, mais il y a quand même une stratégie de gestion.
Oui, chacun a une bonne raison de faire ce qu'il fait.
Exactement. Tous les acteurs ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Et c'est bien en s'intéressant aux façons que les gens ont de faire ce qu'ils font qu'on peut faire évoluer des usages. Dans le système actuel, les gens font ce qu'ils font. Après, on pense, du fait de cette intelligence collective, de ces usages, on va donc développer un autre système où les gens vont agir autrement dans le système. Les gens peuvent avoir des comportements de prédation de la ressource dans le système actuel et revoir complètement leur copie de par le dialogue, d'être informé de certains expats ou d'arriver à faire des alliances, d'arriver à trouver là de nouveaux intérêts, à être entendu dans des besoins fondamentaux qu'ils avaient dans, et qui conduisaient à avoir des usages parfois pas adéquats, si on se place du point de vue de la préservation des ressources. Donc, ce dialogue, ce qui est intéressant, il me semble aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la rencontre avec l'autre, jusqu'ici, dans notre entretien, mais c'est aussi, le dialogue, il donne aussi accès à soi. Il donne accès à soi parce que la rencontre avec l'autre, c'est aussi l'opportunité de révéler ce que je fais, de me questionner sur, mais en fait, pourquoi je fais comme ça? Pourquoi je me prends comme ça? Et donc, ça devient un révélateur d'usage pour l'acteur lui-même, qui n'a pas toujours une conscience préexistante de la pluralité des dimensions de son activité, de ce qu'il fait.
Ça lui permet de prendre du recul aussi sur les raisons, ce qu'il y gagne, ce qu'il y perd, quels sont les autres points de vue, et finalement, est-ce qu'il a des choses à apprendre aussi des autres?
Oui, mais à apprendre des autres de par les dilemmes que le dialogue révèle. C'est-à-dire que d'un coup, par le dialogue, le dialogue révèle les dilemmes que cet acteur avait entre des critères distincts pour agir qu'il avait. Et en fait, ces critères, à travers l'écoute des critères de l'autre à agir, va un peu révéler, va parfois ouvrir en fait des dilemmes, des questions qu'il ne se posait plus ou qu'il avait oublié de se poser. Et en fait, le dialogue va réactiver ces dilemmes et va lui permettre de construire une analyse de ces dilemmes.
Est-ce que vous avez un exemple de dilemme, par exemple, dans le domaine de l'eau, puisque vous avez commencé à amener ce sujet?
Ce qu'il y a avec le dilemme, c'est que, vous voyez, il y a l'approche populaire des dilemmes. Le dilemme, c'est avoir à choisir entre ceci ou cela. Quand vraiment on rentre dans l'épaisseur de l'activité d'un professionnel, c'est vraiment toute la formulation du dilemme qui va être intéressante. Avant le dialogue, le technicien, là par exemple, il sait qu'il doit faire évoluer la pratique de l'agriculteur. Donc pour lui, d'une certaine façon, il n'y a pas de question puisqu'il y a déjà la réponse. Donc il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas de question puisqu'il y a la réponse. La réponse, c'est que les produits phytosanitaires altèrent la potabilité de l'eau et que c'est l'agriculteur qui a recours à ces produits phytosanitaires. Et donc, il faut faire évoluer le recours à ces produits phytosanitaires de l'agriculteur. Ça, c'est la position de départ. Donc, d'une certaine façon, il n'a pas accès au dilemme. Donc, il n'y a pas de dilemme ni pour lui, ni il a accès au dilemme de l'agriculteur, peut-être d'autres façons d'agir que pourrait avoir l'agriculteur. Et donc, moi je serais bien en peine de vous dire comme ça, là, à froid, un dilemme qui soit suffisamment, qui donne en épaisseur l'expérience du technicien. De gagner en épaisseur.
En fait, c'est en tout cas autour de la conciliation entre plusieurs objectifs, plusieurs valeurs, plusieurs mondes de valeurs. Il s'agit d'avancer ensemble, par exemple, pour concilier qualité de l'eau et production de l'agriculteur. Et il y a plein de points de discussion autour de ça.
Oui. Bon, alors là, on pourrait dire, si on fait un dilemme un peu trivial, ça va être entre, effectivement, l'usage du produit phytosanitaire et, à l'autre bout, vente de mes produits. C'est-à-dire que effectivement, l'agriculteur a recours aux produits phytosanitaires parce qu'il veut s'assurer une vente de ses produits. Donc, si on réfléchit à la vente des produits de manière autre, si on soutient la vente des produits des agriculteurs, bon, on résout d'une certaine façon on gagne en épaisseur parce que le dilemme, il est un peu plus que simplement la solution d'utiliser les produits phytosanitaires pour avoir accès à une production.
Oui, ce dont vous parlez, finalement, c'est de distinguer une solution face à un besoin et ce besoin. C'est-à-dire que du coup, là, ce que vous dites, c'est qu'il y avait une solution, c'est utiliser les phytos. Et le besoin, c'est quand même de vendre sa production de manière un peu fiable, un peu sécurisée. Et pour répondre à ce besoin, il y a peut-être aussi d'autres solutions qui sont complémentaires, hein, potentiellement. Et donc, en retravaillant vers ce besoin, on va réouvrir une possibilité de point de discussion.
Exactement. Et tout à l'heure, on évoquait le fait de systèmes que les gens ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font dans les systèmes actuels. C'est-à-dire que dans le système actuel de l'agriculture, il y a un recours collectif aux phytosanitaires. C'est ça qui a été promu. Donc, c'est ça que les agriculteurs font. dans une agriculture de demain où il y a une approche territorialisée et où il y a des filières, où il y a des logiques de solidarité de consommateurs qui, au lieu de consommer à pas cher du produit venu de loin, vont venir soutenir l'agriculture de proximité, ou des usines de transformation de produits à proximité sur les territoires qui permettent de la production d'être transformée et acheminée. Si on a une approche de filière et donc de valorisation des produits agricoles, ben on crée un nouveau système. J'insiste sur la notion de système parce que pour faire référence à un acteur collectif, considérer les agriculteurs dans la logique de leur métier, dans la logique d'un acteur collectif qui est l'acteur agricole, on va dire. Donc, si on fait pression sur l'individu et qu'on lui tape sur la tête en lui disant c'est pas bien d'utiliser les produits phytosanitaires, ben, d'une certaine façon, on crée jamais l'espace de dialogue. On socialise pas, on crée pas un nouveau système social, on crée pas un nouveau système d'interdépendance dans lequel dominer la terre n'est plus l'archétype fondateur, quoi. Il faut créer un autre système collectif où il ne soit pas simplement de la liberté ou de la responsabilité individuelle d'agir, mais il faut développer une autre approche pour permettre collectivement aux différentes institutions professionnelles, aux différentes institutions et organisations professionnelles de se situer.
Donc en fait, ouvrir un espace de dialogue territorial, ça permet finalement d'aller questionner tous ces sujets et de retrouver une expression des besoins, de formuler des problèmes peut-être autrement que ce qu'ils sont formulés de manière caricaturale aujourd'hui dans la société. Donc ce faisant, d'aller ouvrir des possibles, d'aller explorer des choses, d'aller innover aussi dans la créativité. Et parce qu'on est ensemble, alors on peut aussi réfléchir système. C'est pas une personne, deux personnes, c'est l'ensemble des personnes concernées. Et donc elles peuvent imaginer quelque chose, expérimenter quelque chose.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi, vous évoquez la façon un peu première, de façon un peu caricaturale, vous évoquez, vous repreniez ça, mais c'est aussi tout l'intérêt en fait d'une approche localisée. C'est-à-dire que comme on est dans une démocratie, on peut remercier la Terre qui abrite nos pas pour ça, beaucoup de notre puissance publique, enfin notre puissance publique s'organise au niveau national. Donc il y a beaucoup de logiques des politiques publiques qui s'organisent au niveau national. Or, des fois, ce qui est pensé qui soit valable pour tous les territoires sur la scène nationale et outre-mer, ce n'est pas forcément adapté à la réalité locale. Et en fait, par le dialogue territorial, on remet l'intelligence collective au plus près du territoire. Je peux vous donner un autre exemple qui se passe dans un tout autre secteur que celui de l'environnement, qui est celui des politiques de l'emploi. J'ai pu animer des événements de dialogue territorial qui réunissaient les acteurs de l'emploi. Avec là encore le même objet, c'est-à-dire sortir d'une approche prescrite où chacun tient sa posture, son position, son discours sur qu'est-ce que doit être, que fait et que doit faire, que fait Pôle emploi, que fait la mission locale avec les jeunes, que fait ceci. Et où on n'est plus sur sur du marketing de promotionnel de ce que fait l'activité de chacun, ce qui est souvent le cas des assemblées, où chacun promeut ce qu'il fait, mais où on va vraiment problématiser différents obstacles que rencontrent les acteurs pour résoudre les problèmes d'emploi sur le territoire, et on va croiser des regards sur ces problèmes, sur des empêchements, sur le fait que comment un pays développé comme le nôtre puisse avoir des taux d'inactivité quand on connaît l'importance du travail dans la vie d'un homme ou d'une femme, comment on peut arriver encore à des taux pareils, y compris chez les jeunes. Donc là, de la même manière, on développe de par la connaissance que les acteurs ont du territoire, on va développer des approches de la gestion de l'emploi très différentes à partir du moment où on prête écoute à l'intelligence des professionnels, où on prête écoute à ce qui se fait déjà sur les territoires, où on favorise la meilleure interconnaissance des gens, l'intérêt pour ce que fait l'autre, le respect pour ce que fait l'autre, et où on va développer là de l'intelligence collective pour agir de manière plus, plus opérationnelle, plus rationnelle aussi. Il s'agit de gagner en rationalité aussi.
Donc, en fait, augmenter notre pouvoir d'agir individuel et collectif en formulant les problèmes de manière un peu nouvelle, avancer ensemble de manière créative et expérimenter donc de manière ancrée sur un territoire.
Oui, tout à fait.
Merci Elsa.
Merci beaucoup Claire de cet échange.
C'était Regards croisés sur la médiation. Retrouvez-nous tous les mercredis sur les ondes de RDB et sur rdbfm.com.